Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus ce matin. J'aime bien le Seigneur. Il est celui, quand on lui demande quelque chose et que c'est dans sa volonté, il répond. Je trouve que vraiment, Dieu a préparé ce culte. Je le dis parce que, Aurélien, ce que tu as dit ce matin, si tu continues encore, j'avais plus besoin de parler ce matin. C'est vraiment ça. Je suis content. Merci Seigneur parce que il veut encore nous parler à chacun. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous voyez quelque chose et directement on a envie de le dire aux uns, aux autres. On voit quelque chose qui nous a frappé. On a envie de le raconter. Vendredi, il avait un arc-en-ciel. Il était vraiment, vraiment beau. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, Myriam, t'as vu l'arc-en-ciel? Elle m'a dit, moi aussi, je l'ai vu. C'était tellement beau. On a envie de le raconter. J'ai mon gamin, Mathieu, il joue au football, la plupart le sait. Et quand il va à l'entraînement, je le laisse et je reviens à la maison. Il y a tellement de choses à faire, mais aussi pour me reposer aussi, hein, je le fais. Et quand je vais le chercher, il rentre dans la voiture, généralement, il m'explique ce qu'il a fait à l'entraînement. « Oh papa, j'ai pris le ballon, je commence à dribbler, et j'ai dribblé le gardien, et j'ai marqué un goal. » Il raconte ce qu'il a fait. Il n'y a pas si longtemps, j'étais au travail, j'ai reçu un SMS, et c'était mon épouse, qu'elle m'envoie un SMS en me disant « Encore, encore un miracle. » C'était concernant une date. On a envie de raconter quand il y a quelque chose qui se passe. J'ai mon frère Salvatore, lui quand il me téléphone, c'est pas pour me demander « Comment tu vas, Gino ?» Il me le dit de temps en temps. Mais c'est toujours pour raconter ce qu'il a fait ou ce qu'il a vu. Et on va lire un psaume, on va rester dans les psaumes. Le psaume 48. Je vais le lire après quoi ? Juste une petite introduction. Bon, on va lire ce psaume 48. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfait, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés, comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion. Parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez ses remparts et examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Voilà un psaume qu'ils veulent raconter à toutes les générations. Aujourd'hui pour nous, demain pour nos enfants. Ils racontent ce que Dieu a fait. Et ils le font en chantant. Ils racontent quoi au juste par ce chant? Ils racontent que Dieu a gardé cette ville. L'Éternel l'a délivrée de ses ennemis. Quelle ville? La ville de Sion. Sion est la cité de David qui l'a conquérie. Et aussi, elle est appelée, cette ville, la ville de Dieu. Et aussi, la ville de Jérusalem. La cité de David. La ville de Dieu. Moi, j'ai habité dans une cité. On n'a jamais appelé la cité de Gino. Jamais. Pourtant, j'ai vécu là. Mais on n'a jamais dit que c'était la cité de Gino. Et on n'a jamais non plus entendu que c'était la ville de Dieu. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils l'ont dit. Et là, il est cité que c'est la cité de David, la ville de Dieu. C'est une colline d'une hauteur de 765 mètres. Le nom Sion désigne aussi le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Je ne vais pas modifier ce psaume, mais je voudrais vraiment le mettre dans ma vie. Que vous pouvez aussi le mettre dans votre vie. Sion dans ma vie. C'est quoi ça? On va le voir ensemble. Sion dans ma vie. Nous allons regarder ce psaume 48. Je l'ai coupé en trois parties. Vous pouvez même le couper en quatre, et pour être plus court, en trois parties. Voilà pour l'introduction. Et la première partie, c'est les versets de 2 à 4. La montagne sainte. Oui, Sion, il y avait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu était présent au milieu de son peuple. Le peuple de Dieu avait une relation avec Dieu. Quel privilège ils avaient! Quel privilège! Dieu était présent avec eux, jour et nuit. Alors, Sion dans ma vie, c'est quoi? Mais tout simplement, c'est la présence de Dieu dans ma vie. C'est la présence de Dieu dans ma vie. Je suis moi, Gino, vous pouvez mettre votre prénom, vous êtes la cité de Dieu. Je suis la cité de Dieu. Je suis la ville de Dieu. Et je fais quoi dans cette présence de Dieu? Je fais quoi? Tout simplement, je lui parle. Il n'y a pas de règle pour lui parler. Il n'y a pas non plus de formule pour lui parler. Je parle avec le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de sujet trop petit ou trop grand pour lui. Car il s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Dans cette présence de Dieu, je peux tout lui apporter. Et comme le peuple le faisait, on peut le faire aussi. Lui apporter nos péchés, nos fautes. Je peux lui apporter tous mes soucis. Attends, Gino, tu es enfant de Dieu, tu as encore des soucis? J'en ai plus maintenant que je suis enfant de Dieu qu'avant. Tellement Dieu me montre beaucoup de choses. Je suis plus dans la tristesse aujourd'hui qu'avant, en voyant tout ce qui se passe. La présence de Dieu dans ma vie, je vois plein de choses. Et là, je peux apporter mes chagrins, mes angoisses, mais aussi j'apporte toute la reconnaissance. Dieu écoute. Oui, Dieu, et Aurélien l'a dit, n'est pas seulement le grand Dieu créateur. On le chante, et c'est beau, il faut le chanter. Dieu est grand. Mais il est aussi le Dieu d'amour, qu'on chante aussi. Ça veut dire quoi, Dieu est amour? C'est qu'il veut, il désire avoir une relation avec nous. Dieu veut une relation avec nous. Quel privilège! Quel privilège! Nous avons du prix pour lui. Nous avons du prix pour lui. Être dans sa présence de Dieu, c'est une relation avec lui. Je peux parler, mais aussi je dois m'arrêter pour l'écouter. Ce n'est pas que je m'arrête, hop, il y a une petite voix qui va me dire, Gino, fais ça, fais comme si, ou tu sais, ça va comme ça. Non, Dieu a laissé sa parole. Et Dieu veut parler à travers de sa parole, comme avec son peuple. Quel privilège que nous avons. Nous sommes, l'apôtre Paul le dit, nous sommes le temple de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, dans l'ordre de la Convention, il a parlé de ça. Et il a dit, c'est encore plus que le temple de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Le peuple de Dieu vivait dans cette montagne sainte. Je vis jour et nuit dans cette montagne sainte avec mon Dieu, avec notre Dieu. Nous avons jour après jour, la présence de Dieu. Il est dit que cette colline est belle. Belle est la colline. Alors, est-ce qu'il parle de la beauté de Sion ou est-ce qu'elle était vraiment belle? En tout cas, beaucoup de peuples et de personnes voulaient cette colline. Il la voulait pourquoi? Elle était belle, à votre avis? Si je vous dis maintenant, Myriam est belle, vous allez tous la regarder. Et vous allez me dire tous, oui, elle est belle. Mais vous allez tous la regarder. Et si je dis, elle est belle, Myriam, est-ce que c'est pour vous dire, oui, moi je vis avec elle. Moi je la connais, Myriam. Moi je connais son cœur, pas tout, parce qu'il y a toujours son petit jardin secret. Mais je connais son cœur. Je connais sa douceur pour moi. Je connais son amour pour moi. Je connais sa bonté pour moi. Je connais sa patience pour moi, elle en a beaucoup pour moi, et son pardon pour moi. Alors, je peux dire, belle est Myriam. Elle est belle, la colline de Sion. Alors, quelle application dans ma vie, si elle est belle, Sion? Mais tout simplement, je peux dire, oui, dans la présence de Dieu, je vois toute la beauté de Dieu dans ma vie. Toute la beauté. Dans cette beauté, je vois la douceur de Dieu pour moi. Quand il a commencé à parler avec moi, Dieu, ce n'était pas pour me juger. Loin de là. Mais il a commencé à parler pour me sauver. Ça, c'est toute la douceur de Dieu. Et je vois toute la beauté de Dieu. Et puis il m'a commencé à me parler aussi pour me corriger, pour m'instruire dans sa justice. Et quand je vois toute sa beauté, je vois aussi la bonté de Dieu pour moi. Il est celui qui me pardonne jour après jour. Et je connais aussi sa patience. Quand j'ai des doutes, oui, j'ai encore des doutes parfois, ça arrive. Il me montre son chemin. Je connais aussi son amour pour moi, mais aussi pour les autres. Alors je peux dire, quelle est belle cette colline de Sion. Dans ma vie, Sion, elle est vraiment belle. J'ai cette présence de Dieu, mais aussi je vois toute la beauté de Dieu. Oui, le peuple de Dieu avait cette présence et pouvait dire, oui, elle est belle cette colline. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'est les versets 5 à 9. C'est le centre du psaume. Moi, j'aime bien le football. Quand on commence un match, on est au centre du terrain. Ou quand il y a un goal, on recommence et on fait le centre. Eh bien, ici, c'est vraiment le centre où Dieu veut nous parler à chacun de nous. Il parle de la défaite des ennemis de Sion. Que Dieu assure la sécurité de Sion. Beaucoup de rois se sont rassemblés contre elle. Et il donne un exemple de navire. Au verset 8. C'était des navires, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, et ils pensent, ils sont pas certains, que ce sont des navires de marchands. Ils étaient grands déjà à cette époque-là, qui venaient de la mer méditerranéenne. Mais les vents d'Orient brisaient ces navires. Pas tous, mais ça arrivait. Les ennemis voulaient la ville de Sion, mais impossible de la voir. Le peuple de Dieu était dans la présence de Dieu et ont vu la colline qu'elle était belle. Mais il y a autre chose qui se passe. C'est que souvent, je dirais pratiquement tous les jours, ils avaient des persécutions. On peut vivre avec Dieu. On peut être dans la présence de Dieu. On peut voir toute la beauté de Dieu. Mais souvent, nous avons des persécutions. Alors, Sion, dans ma vie, c'est une vie, mes frères et sœurs, de persécution. Tu auras des attaques, comme ces grands navires de marchands. Ça finit jamais. On dirait que ça se suit, ces attaques, jour après jour. Il y a un verset que tous les chrétiens connaissent. C'est Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tout le monde le connaît. Je suis avec vous tous les jours. Jésus nous dit. C'est un verset qui nous donne cette assurance qu'il est avec nous tous les jours. Et c'est comme ça qu'on doit le prendre. Mais tout en réfléchissant, je me dis, si Jésus est tous les jours avec moi, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que tous les jours, je serai persécuté. Tous les jours, je serai persécuté. Pourquoi? Parce que Jésus, tous les jours, il était persécuté. Et Jésus m'a dit, et il nous dit à tous, pareil qu'à moi, que tu seras persécuté. C'est lui qui nous le dit. Et on voit dans cette histoire de Paul, quand il voulait arrêter les chrétiens, Jésus lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu ? » Les chrétiens vivaient avec Jésus. automatiquement, nous serons persécutés. La vie chrétienne n'est pas facile. Vraiment pas facile. Si beaucoup de rois se sont rassemblés contre Sion, c'est contre Dieu qu'ils se sont rassemblés. Alors beaucoup de personnes, s'ils sont contre toi, c'est parce que tu vis avec Jésus. Au travail, au réfectoire, si j'ai l'occasion de parler de Dieu avec l'un, mais directement, j'ai tout le réfectoire qui est contre moi, sauf une personne qui est mon frère Mario. Ou sinon, tous les autres sont contre moi. Mais au juste, ce n'est pas contre moi, c'est contre Jésus. Alors, comment Dieu a brisé ce navire? Ils ont compté sur la grâce de Dieu. Dieu seul pouvait faire quelque chose pour eux. Et il y a dans ce verset 9, on doit retenir, c'est la ville de l'Éternel de Dieu. La ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. C'est important de retenir cela. Quand il donne l'exemple du navire, ça ne veut pas dire que tous les navires vont être brisés. C'est un exemple, c'est tout. Je pense vraiment à la persécution d'Étienne. Le navire n'a pas été brisé. Cette persécution, c'était la mort d'Étienne. Je pense à l'apôtre Paul. Le bateau n'a pas été brisé. C'est la mort de l'apôtre Paul. Ainsi que pour les autres apôtres, pas tous, mais la plupart. Et ainsi, on en a parlé encore mardi, Porte Ouverte nous raconte combien de frères et sœurs sont morts. Pourtant, ces navires n'ont pas été brisés. Mais Jésus nous a dit, dans Jean 16, 33, c'est important, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » La paix en moi. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le chrétien doit savoir que même dans la persécution, jusqu'à la persécution, la mort, le chrétien connaîtra toujours, toujours la paix de Dieu. La paix de Dieu. Je vais donner quelques exemples. Pas les miens, mais les autres. Pas de persécution, mais de maladie, où il fallait passer par une opération. Et j'entends les chrétiens qui disent « J'ai la paix de Dieu. » Je pense à Christian, je pense à Evelyne, je pense à Francis qui m'a raconté qu'il avait, quand on était un peu plus jeune, il avait eu un cancer. Je pense à Étienne dans la parole de Dieu, à Paul. Ils avaient la paix de Dieu. Pourtant, ils allaient subir une opération grave. Ils avaient quand même la paix de Dieu. Étienne était là en train de mourir et il avait la paix de Dieu. L'apôtre Paul savait qu'il allait être condamné. Il avait la paix de Dieu. Jésus a dit, j'ai vaincu l'ennemi sur la croix. Il nous donne cette assurance que nous avons la vie éternelle. La ville de Sion, la ville de Dieu, subsistera à toujours. Oui, à toujours. Dans Romains chapitre 8, nous dit, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne, personne. Sion dans ma vie, oui, c'est des persécutions, mais personne ne pourra retirer Sion dans ma vie. Le peuple de Dieu aussi, ils avaient cette assurance en l'Éternel qui gardera cette ville. Nous avons cette confiance en Dieu que personne ne pourra retirer Sion dans notre vie. La troisième et dernière partie, et je termine, elle sera plus courte, c'est les versets 10 à 15. Et ces versets vont vraiment avec l'ensemble de tout. C'est la fidélité de Dieu pour Sion. La fidélité de Dieu pour Sion. Sa puissance se manifeste toujours dans la fidélité. Toujours dans sa fidélité. Alors, Dieu sera toujours votre guide jusqu'à la mort. Est-ce qu'on le croit, ça ? Dieu sera toujours notre guide jusqu'à la mort. Alors, Sion, dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Je vois toute la beauté de Dieu, mais aussi j'aurai la persécution. Mais nous avons l'assurance en Dieu, par sa grâce, elle nous accompagnera jusqu'à la mort. Il est notre guide. Nous avons cette paix en Dieu. Alors, j'ai envie de le raconter à tout le monde. J'ai envie de le raconter à ma famille, à mes enfants, à l'entour de moi. Comme ce chant, ils ont envie de le raconter. Ce psaume 48, c'est un psaume prophétique. Je devais commencer par le dire. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des films où on voit qu'il a commencé à l'envers, ce film. Mais c'est tout à fait la même chose. Je voulais commencer à l'envers. Pour dire, oui, Dieu sera toujours et toujours avec Sion. Toujours. Elle sera toujours belle, elle sera toujours attaquée, mais Dieu nous dit, à la fin des temps, Dieu sera toujours, toujours avec son peuple et son Église. Et on verra tous sa beauté. Et là, il n'y aura plus de persécution pour Sion. C'est fini. Parce que Dieu a brisé ce grand et ce grand navire qui est Satan. Nous serons dans sa présence. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire dans sa présence de Dieu ? Il essuiera toutes vos larmes. Toutes vos larmes. J'aime entendre cela. Je termine avec cette histoire. Mon gamin Mathieu, la semaine dernière, il a eu un tournoi de football. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs matchs. Et lors d'un match, il a reçu le ballon sur son œil. Directement, il est tombé par terre, il a mis sa main sur son œil. L'entraîneur a couru sur le pour aller voir Mathieu. Et en regardant, directement, il voulait me voir pour me dire que c'était quand même assez grave. Et alors, j'ai pris Mathieu. Et on a été dans une pièce à l'infirmerie et j'ai pris des glaçons pour mettre sur son œil. Il était vraiment bien gonflé. Et il commençait à pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un y pleure ? Simplement essuyer cette douleur qui est en train de couler et couler et couler. J'étais là en train d'essuyer ses larmes. Et un dirigeant est rentré et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit oui. Et ce dirigeant m'a dit, tu veux un café? Mathieu, tu veux un jus d'orange? Vous savez, Dieu, quand il va essuyer nos larmes, il ne va pas te demander, tu veux un café ou un jus d'orange? Mais il te dira, regarde, la table est prête pour ce grand et ce grand festin. Alors cette douleur, tu l'oublieras parce que tu seras dans cette présence avec Dieu. Ça vaut le coup d'avoir mal ici, mais un jour, ce sera fini pour toujours, où il n'y aura plus de douleur grâce à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.